nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Entre les murs, les mains de la clinique, il est perdu. Il finira dans des boîtes pour chiens.
Compresse.
Bien sûr, comme ça, c'est facile à régler, et même pour les pré-retraites. Mais il y a d'autres personnes, pour d'autres personnes c'est plus coriace. Mais tout est bon pour y arriver.
Si.
Les jours passent. Monsieur Gamme, directeur informatique, responsable de l'information informatique de toute la société, c'est un homme dans les 40 ans, il en paraît 15 de moins, grand, mince, chantin, avec un visage très doux, un peu enfant, des cheveux très épais, un petit nez. Il a une élégance
très anglaise, un peu 19e, habillée d'un costume trois pièces gris, sort de son bureau avec son cartable. Prend l'ascenseur. Arrive au rez-de-chaussée. Avant qu'il ne franchisse la porte, un agent de la sécurité vient vers lui. Il barre le passage. Monsieur, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Veuillez me suivre. Et ils suivent l'homme qui le mène dans une petite pièce du rez-de-chaussée. Il y a une table avec des chaises. L'homme lui dit, veuillez me donner votre cartable, s'il vous plaît. Quoi? Votre cartable? L'homme lui tend son cartable. Le jeune homme, qui a l'air d'un très jeune homme, lui a tendu son cartable, inquiet. L'homme l'ouvre, fouille le cartable et voit que se trouvent dans le cartable des disquettes, des CD. L'homme lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai mis ça dans mon cartable. L'homme lui dit, les disquettes? Au nom du groupe? Vous alliez où avec ça? Monsieur Gamme lui dit, je ne sais pas, je vous jure que je ne le savais pas. Vous vous prenez pour un imbécile? Je vous jure que non. Ce n'est pas moi qui ai mis ça dans mon cartable. L'homme lui dit, nous allons voir ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Prévenir mon supérieur, tiens. Et il prend son téléphone, un numéro. Allô, ici le service de sécurité numéro 530. J'ai à l'accueil A1 une personne qui a dans son cartable des disquettes. Vous venez le chercher? Bien. Il décroche. Jeune soupire et dit, je vous jure que je n'y suis pour rien. L'homme lui dit, maintenant c'est plus mon affaire. Vous verrez avec le responsable. Le jeune soupire et dit, c'est vraiment une histoire ridicule. Et dire que j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Le surveillant lui dit, ça c'est, si c'est une erreur, il n'y en a pas pour longtemps. La porte s'est ouverte. Entre deux gardes, habillés comme des policiers. Ils ont même des revolvers. Ils entourent le pauvre jeune homme. L'un des gardes dit, les mains en l'air. Il lève les mains. Le garde le fouille. Prenne tout ce qu'il a dans ses poches. Il met sur la table. Il y a un portefeuille, le regarde, la carte petit écran, des photos de famille, un mouchoir, des lunettes, une montre. Il met tout ça dans un paquet. Du gars qui les a interpellés, leur donne le cartable et les disquettes.
Un des gardes, un policier, lui dit « Venez nous suivre. Venez avec nous. » Le jeune homme soupire et sort de la pièce. Ils vont prendre l'ascenseur. Où vous allez me mener? Au bureau du chef de la surveillance. Arrivé au 5e étage, il sort de l'ascenseur. Suivent un long couloir. Appuie sur un bouton. Il y a une lumière verte qui apparaît. Il ouvre une porte. Ils entrent. Grand bureau. Moderne. Meubles métalliques. Un homme est assis à son bureau. Les grands, forts, moustaches et cheveux gris. Costume marine. L'homme lui dit « Approchez-vous !» Il s'approche. Alors, que se passe-t-il ? Surveillant qui a interpellé M. Gam dit « J'ai trouvé dans le cartable de monsieur les disquettes du décédé de l'entreprise. J'allais partir avec. » Il tend les disquettes. Le jeune homme dit « Mais c'est faux !» Le directeur de la sécurité lui dit « Silence ici! C'est moi qui parle! Que se passe-t-il ?» On lui tend la carte du jeune homme. Le directeur la pose sur l'écran pour voir qui il est. Il y voit le nom, le prénom, l'âge, profession, adresse. Ce qu'il a sur son compte, dépenses, sécurité sociale, maladie, casier judiciaire. Et dit, « Ah, monsieur, comme cela fait 15 ans que vous êtes dans nos murs et vous êtes directeur information du groupe informatique de toute la société. Bon poste !» Vous avez sur votre compte une somme assez intéressante. Vous avez dû certainement donner des informations, vendu des informations du groupe. Le jeune lui dit, non, je vous assure, c'est faux. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai mis les disquettes sont dans mon cartable. Le directeur lui dit, alors qui est-ce? Je ne sais pas. Vous voulez me faire croire qu'elles sont venues comme ça, monsieur Gam. Non, monsieur Gam, ça ne prend pas. Vous avez bien volé les disquettes pour les vendre à nos concurrents. Je lui dis, c'est ridicule, il n'y a pas de concurrent. Alors, nous sommes les seuls en France. Théâtre lui dit, aux Américains alors. Je ne connais pas d'Américain. Directeur lui dit. Eh bon, qu'importe. Vous avez volé ces disquettes, voilà tout. Non, je vous le jure. Ça suffit, monsieur. Ça fait combien de temps que vous faites ce trafic? Jamais. Pourtant, j'avais bien dû en vendre. Dans votre stock, je me dis, non. Pourtant, il y a une bonne somme dans votre compte. Je lui dis, c'est mes économies. Vous me prenez pour un imbécile, non? Allons, avouez que vous faites de l'espionnage. Non, jamais. Eh bien, j'appelle la police
Et ils vous prendront, vous irez en prison, et votre vie sera perdue. À moins que, si vous êtes sage, vous me signiez comme quoi vous avez fait le vol de disquettes et CD, et vous donnez votre démission. Ça reste entre nous. Vous pourrez partir et trouver un autre travail. Votre casier judiciaire sera vierge. Alors, il fait le geste de prendre le téléphone. Le jeune homme soupire et dit « Bien, j'ai compris, je signe et je pars. » Le directeur lui dit « Vous êtes devenu sage, eh bien, approchez. » Il s'approche. Signez ici. Le jeune homme signe. On lui rend ses affaires. Le directeur lui dit, oui, partir, laissez-le partir. Le jeune homme ramasse ses affaires. Et s'en va. Il y a de nombreux cas de vol ces derniers temps. Une jeune fille, grande, mince, blonde, dans les 22 ans, est très, disons, sexy, les lèvres pulpeuses, les yeux aguicheurs, habillée d'un tailleur rouge, nue dessous, jupe très courte, grand décolleté. C'est la secrétaire du service des montages. Elle va avec un dossier au bureau du directeur du service, Monsieur Lemoine. Elle appuie sur le bouton, le voyant vert s'allume. Elle entre. Grand bureau moderne. Assis à son bureau, Monsieur Lemoine. C'est un homme grand, mince, brun, à lunettes, costume, trois pièces. Gris. Elle lui dit « Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Brigitte. » Elle va vers lui. « Je vous apporte le dossier P51. C'est moi-même qui l'ai préparé. Merci beaucoup. » Il ouvre le dossier. Elle lui dit, tout est bien noté, vous savez. Elle va vers lui.
se met près de lui, se penche de près, et se penche tout contre lui pour lui montrer ce qu'elle a écrit. Voyez là, et là, il a chaud, ce corps contre lui, ses seins qui sont contre son visage, il étouffle. Elle sourit à chaque fois. Il n'en peut plus. Ça va, merci. Ferme le dossier. Très rapidement. Les feuilles tombent à terre. Il se baisse pour les ramasser. Elle aussi. Elle a la tête contre la sienne. Elle ramasse ses feuilles et se relève. En s'appuyant avec le bout de sa cuisse, elle fait « Oh !» Elle se relève. Lui se lève. Il est tout tremblant. J'ai déposé le dossier dans le placard. Elle le colle. Oh ! Le dossier tombe à terre encore une fois. Elle se baisse pour le ramasser. Lui aussi. Elle trébuche. Oh ! Et le fait tomber à la renverse. Oh ! Elle est contre lui. Elle se plaque contre lui. Lui, n'en pouvant plus, ce corps contre lui. D'où de belles femmes. Elle se plaque contre lui. Mais, si, il sent ses jambes, ses seins, bien plaqués contre lui, des seins contre sa poitrine, ses jambes contre les siennes, n'en pouvant plus. Il la sent. Il sent son souffle court. Il la retourne. Oh ! Il soulève sa jupe. Et descend son pantalon. Et fait ce qu'il a à faire. Une fois que la chose est faite, il se soulève, essoufflé. Elle est défaite, les cheveux en broussaille. Pleure, crie. Sort du bureau. Lui n'arrive pas à se remettre. Il entend la fille crier. Il m'a violé, il m'a violé. Au secours, au secours, au secours. Des cris, des pleurs. Il m'a violé. Au secours, au secours. La porte du bureau qui s'ouvre. C'est Judith, accompagnée du personnel. Elle lui dit, monsieur, ce que vous avez fait là est inadmissible. Venez dans mon bureau. Mmh.
madame. Silence.
Mademoiselle Lapin, dit à Judith,
vous allez vous enfermer dans le bureau avec ce sadique.
Judith dit, il le faut bien.
Quel courage.
Le pauvre monsieur Lenoir est sorti du bureau entre deux rangées de femmes et il y avait tous la haine à son bureau. Asseyez-vous,
il s'assoit,
il va s'asseoir au fond du bureau.
Vous comprenez que l'on ne peut pas vous garder. Monsieur Lenoir, faire ça chez nous, c'est une honte.
Monsieur Lenoir lui dit,
je vous en demande pardon, madame la directrice. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui m'a pris. Mais ce n'est pas vraiment de ma faute.
Elle lui dit, comment osez-vous dire ça?
Il y a du sperme sur la jupe de la pauvre Brigitte. Et ce sera gardé dans nos archives. C'est une preuve indéniable. La preuve irréfutable.
Il lui dit, pourtant, je ne suis pas tout à fait coupable, et je dirais même un peu victime. Je ne suis qu'un homme, et elle, vous.
Vous n'allez pas me dire qu'elle a cherché à vous violer.
Ah non, vous êtes coupable, voilà tout.
Il lui dit, mettez-vous à ma place, sa tenue, disons, qui a un côté un peu aguichant, sa façon de se comporter avec moi, tout le temps plaqué contre moi.
Elle lui dit, femme n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut. Vous, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Alors pourquoi pas les femmes?
Vous n'allez pas me dire qu'une femme vous a violé. Voyons, monsieur.
Il lui dit, peut-être, mais ça revient au même.
Elle lui dit, en tout cas, moi je vois une chose, c'est que mademoiselle Brigitte est dans tous ses états et que vous, vous semblez pas malade. Alors, bon, vous pouvez bien comprendre, c'est qu'après une chose pareille, on ne puisse vous garder. Nous allons vous donner votre compte.
Le temps passe. Il y a de plus en plus de nouveaux dans l'entreprise. Maurice trouve bien le rajeunissement du personnel, surtout que les nouveaux sont très efficaces. Judith présente le bulletin de son travail au vieil homme en noir dans le bureau de sa maison. Elle lui dit,
nous avons toutes les informations de l'entreprise, puisque le poste a été pris par un de nos hommes, de la comptabilité, du courrier, des fournitures, des relations humaines, et, c'est-à-dire de l'embauche, et de la direction technique du chantier. Il ne reste plus que la direction générale.
Le vieil me dit, il a un bras droit, je crois.
Oui, il faudra lui en trouver un autre.
C'est bien. Continue à embaucher.
Bien, monsieur.
Et elle sort de la pièce.
Mmh.
Les jours passent.
Maurice est de plus en plus entouré de gens de la nouvelle génération. Sans qu'il se rende compte, les soleils se sont emparés de son entreprise. Ne lui reste plus que quelques proches collaborateurs. Un après-midi, il envoie son chauffeur à Boulogne chercher un dossier qu'il avait oublié d'un de ses séjours. Chauffeur sur la route, au retour, à un accident. Il est mort sur le coup. Il a eu le même genre d'accident que celui de Gilbert. Mais l'ambulance était déjà près du lieu de l'accident. Comme par hasard, l'ambulance l'a amené à la clinique Genetoux-Pontoise. On n'a rien pu faire. Et le corps a été incinéré.
Compresse. Si.
Judith, qui a appris la nouvelle, propose de suite à Maurice de lui chercher un nouveau chauffeur. Ce qui fait que maintenant, il y a un chauffeur à eux. Trois mois plus tard, le maître d'hôtel ouvre un livreur de fleurs. En lui remettant le bouquet, le maître d'hôtel reçoit comme une piqûre dans le bras, et c'en était une. Une demi-heure plus tard, il est mort d'un arrêt du corps. Elisabeth a fait venir un médecin de la clinique parce que c'est la meilleure de toutes. Le médecin lui a dit qu'il avait eu un accident cardiaque, qu'il n'aurait eu rien à faire. Là, comme le cadavre était vieux, on l'a laissé s'enterrer. Comme d'habitude, c'est la bonne Judith qui
qui a proposé à Charlotte un nouveau maître d'hôtel. Qui lui, 6 mois plus tard, a décrété qu'il fallait changer la bonne qui soi-disant buvait, la cuisinière qui n'était pas propre et la femme de chambre qui était mollasse. Il a proposé des gens bien qu'il connaissait. Charlotte est très heureuse, les nouveaux domestiques sont parfaits. Il est vrai qu'ils sont très efficaces et d'une attention particulière pour Gilbert. Ils vont même au-devant de ce qu'ils demandent. Pendant le repas que Charlotte prend avec son mari, elle lui dit:
je me demande si le maître d'hôtel n'est pas un peu homosexuel, parce qu'il est constamment aux petits soins avec Gilbert. Il s'occupe de lui comme si c'était un bébé, l'aide à s'habiller, lui prépare des repas délicats, lui prépare son bain avant même qu'il arrive et lui chauffe son lit.
Les homosexuels sont de très bons domestiques. Ne te fais pas de soucis pour Gilbert. Il est absolument pas porté là-dessus.
Elle lui dit: on ne sait jamais. Il est pas mal, le maître d'hôtel. Grand, mince, blond. Seulement 40 ans.
Il lui dit: si tu parles comme ça, c'est moi qui devrais me méfier.
Elle lui dit: et moi alors? Avec toutes ces belles femmes qui sont autour de nous.
Il lui dit: c'est vrai que nous avons beaux domestiques, genre suédois, saxon. J'aime bien, mais ne te fais pas de soucis. J'en vois toute la journée de ce genre-là.
Comment?
Il lui dit: oui, dans mon service, il n'y a que des grands blonds. Il n'y a que ça.
Et lui dit: tu dois être le type de Judith.
Oui, sans nul doute.
Un jour, Judith est dans le bureau de Maurice pour affaires de service. Lui dit:
monsieur, vous avez un fils. Il serait bon, c'est de le former, votre fils, pour la succession. Il est en âge de le faire. Plus tôt ce sera, mieux ce sera.
Il lui dit: vous avez raison, mais je crains qu'il ne soit pas d'accord.
Elle lui dit: il le faut absolument qu'il le soit, autrement qui prendra la place?
Je ne sais pas.
Et que veut-il faire?
Il lui dit: il veut être professeur, enseigner.
Et lui dit: mais non, c'est impossible. Il ne peut pas avoir une profession comme ça. Il a un devoir vis-à-vis de vous, de nous. Vous devez absolument le convaincre.
Il lui dit: bien, je vais lui en parler. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il s'occupe un peu de mon entreprise.
Le soir, lorsqu'il rentre chez lui, il monte à la chambre de son fils.
Il frappe à la porte. Entrez, il entre.
Ah, c'est toi, père.
Le père est assis à son bureau. Le père va vers lui et s'assoit à côté de lui.
Oui, j'aimerais c'est que tu puisses passer un peu avec moi de temps en temps dans l'entreprise, travailler avec moi.
J'ai mes cours, père.
Maurice hausse les épaules et lui dit, n'en a pas tellement besoin, ta place est déjà prête.
Gilbert lui dit, tu sais très bien que je ne veux pas travailler dans ton entreprise.
Le père lui dit, et si tu ne me succèdes pas, qui prendra l'entreprise? Qui s'occupera du groupe? Tu ne vas pas le vendre tout de même, le travail de toute une vie. Tu vas effacer d'un coup de signature la vie de ton père, de ta mère. Tout ça va disparaître à cause de toi, parce que tu ne veux pas prendre de responsabilité. Et tu veux passer longtemps à t'amuser?
Ne dis pas ça. J'ai simplement envie, c'est d'avoir une vie qui me plaise.
Son père lui dit, tu oublies une chose. C'est que si tu vis comme ça, ta vie, qui se a passé ton temps comme tu le veux, c'est grâce à moi. Un autre groupe. À notre époque, il y a très peu de jeunes qui peuvent se permettre une jeunesse comme la tienne, insouciante, qui sent peur de son avenir. Alors, si tu as vécu 23-24 ans comme ça, tu peux bien payer ton insouciance pour quelques sacrifices, ou plutôt quelques obligations. De toute façon, lorsque l'on devient adulte, on ne peut pas vivre d'une façon insouciante.
Gilbert lui dit, « Tu voudrais que je sacrifie le reste de mes jours, peut-être 70, 80 ans, qui sait, à faire ce que les autres veulent que je fasse. »
C'est pas tellement un sacrifice, si cruel que ça, tout de même. Tu auras une vie de privilégié, il ne te manquera rien. »
Gilbert lui dit, sauf de ne pas pouvoir vivre la vie que j'aimerais vivre.
Tu veux vivre une vie médiocre de petit professeur où toute la journée tu enseigneras à des jeunes boutonneux qui n'en auront rien à cirer de ce que tu vas leur dire. Se moqueront de toi derrière ton dos. Ne parlons pas de ce que tu vas gagner. Tu vas gagner un salaire de misère. Tu vas vite en avoir marre de tout ça. Et ta femme aussi. Tu sacrifies quoi? Quelle vie? Cette vie-là? C'est bon pour ceux qui ont l'esprit domestique. Réfléchis. Tu veux être dominé au lieu de dominant. Je ne te demande pas d'être maçon avec une truelle, mais de t'occuper d'une entreprise du bâtiment et la première de France et d'Europe.
Père lui dit, je sais père, mais tu m'énerves. Tout le monde attend que tu viennes au siège avec moi.
Quand tu seras décidé, dis-le-moi, mais n'attends pas ma mort, parce que ce sera trop tard. Quelqu'un aura pris ta place par-dessus le nez.
Il se lève et sort.
Mmh. Les jours passent. Julien voit toujours Françoise qui poursuit toujours ses cours d'infirmière. Ils se voient une fois par semaine. C'est pas le grand amour, parce qu'il y a trop de mystères dans la vie de Françoise. Il lui a même pas dit où elle habitait vraiment. Il cache beaucoup de choses. Et puis, elle a créé des histoires. Pas très gentille contre Nathalie. C'est plutôt elle, en réalité, qui cherche à voir Julien pour avoir des nouvelles de Gilbert. Elle ne veut pas perdre de vue Gilbert. Un soir, en entrant chez elle, Faubourg Saint-Jacques, elle suit la rue déserte et marche d'un bon pas. Elle revient d'un petit travail qu'elle fait après ses cours pour se faire un peu de sous. Elle garde une vieille dame, la prépare pour la nuit, la lave, lui donne ses médicaments, la couche et lui une heure. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.